Ville et Moutier sur la nationale 90. À nouveau 20 km de perturbation et une attente d'environ 1h40. Une difficulté liée à la régulation mise en place à Aigueblanche pour fluidifier le trafic sur le reste du trajet et éviter aux véhicules de s'arrêter dans des zones à risque d'éboulement. Au PC Osiris à Albertville, Nathalie Colle pour France Inter.
Un nouveau géant du gaz devrait voir le jour. Dominique de Villepin s'est déclaré favorable à la fusion de Suez et de Gaz de France. L'État détient 80% du capital de GDF. Si l'opération se fait, le Parlement devra réviser la loi. Elle interdit à l'État de descendre en dessous des 70%, un processus nécessaire pour permettre cette fusion. Le conseil d'administration de Suez avait plaidé pour ce rapprochement hier. Le groupe franco-belge voulait ainsi contrer Enel. Cette entreprise italienne comptait lancer une OPA sur Suez. Dominique de Villepin indique de son côté que la fusion entre GDF et Suez doit permettre à la France d'être indépendante sur le plan énergétique. Jacques Chirac a montré son soutien aux éleveurs de volailles. Il a inauguré ce matin le salon de l'agriculture. Devant les caméras et les objectifs, il a mangé du poulet de Bresse. Le chef de l'État a également réaffirmé que manger de la volaille ou des œufs ne présentait aucun risque. Hier, le virus H5N1 de la grippe aviaire a été confirmé dans un élevage situé dans l'Ain. D'après la gendarmerie, de la paille souillée par des déjections de volailles est probablement à l'origine de cette contamination. La garde à vue de Youssouf Fofana a été prolongée de 48 heures. Le chef présumé du gang des barbares a été entendu une nouvelle fois par des enquêteurs français ce matin. Il est détenu à Abidjan. La police tente de savoir dans quelle mesure il serait impliqué dans l'enlèvement et la mort d'Ilan Halimi. À Paris, une source proche de l'enquête apporte de nouvelles pistes pour comprendre le film du drame. La libération d'Ilan aurait échoué. À ce moment, le jeune homme aurait vu le visage d'un de ses ravisseurs. C'est là que la bande aurait décidé de lui ôter la vie de peur d'être reconnu. Une autre affaire de racisme et d'antisémitisme nous emmène à Schiltigheim, près de Strasbourg. Aujourd'hui, une assistante sociale a été agressée hier dans un centre médical. Le directeur de l'établissement affirme que deux hommes ont fait irruption dans son bureau. Ils l'ont roué de coups. Ils auraient alors écrit Mohamed au marqueur sur son ventre et sale juive sur les murs. La préfecture du Bas-Rhin a confirmé la présence d'une inscription à caractère raciste sur le mur et d'une autre inscription sur le corps de la victime. La sûreté départementale a ouvert une enquête. On termine ce point sur l'actualité par les courses hippiques et voici les résultats de la cinquième course. Il fallait parier sur le 5, le 7 et le 6. Dans la sixième, le 9 était non partant. Il fallait jouer le 6, le 18 et le 13.
Lundi 27 février sur France Inter, l'hôpital dans tous ses états. 7h15, reportage de Daniel Messager à l'hôpital de Lorient. 8h20, Stéphane Paoli reçoit Claude Évin, président de la Fédération hospitalière de France. 13h, le 13-14 d'Yves de Caen en direct et en public de l'hôpital Saint-Louis à Paris. 19h20, le téléphone sonne d'Alain Bédoué. La psychiatrie, un an après le plan santé mentale. L'hôpital dans tous ses états, France Inter, lundi 27 février et sur franceinter.com.
Merci d'écouter France Inter, il est 17h06, voici Vali et Système Disque.
Merci Michel Khalifa. Bonjour et bienvenue dans Système Disque.
Stéphane, est-ce que vous savez ce que c'est un DRM?
Un DRM? Ça a rapport avec des droits réservés, non? Dès que j'entends le mot technique, technologie, technodrome, je commence à avoir la migraine. J'ai quand même eu toujours une moyenne d'1,5 sur 20 en physique et en maths pendant ma scolarité. Et j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est technique, technologique.
C'était Hubert Félix Tiffen. Le projet de loi sur les droits d'auteur et droits voisins dans une société d'information va être rediscuté à l'Assemblée nationale dans 2 semaines. Donc notre mission dans Système 10, c'est de donner les clés de la compréhension sur le sujet. Et c'est pour cela que je vous propose aujourd'hui de faire l'abécédaire des DRM, ces mesures techniques de protection qui contrôlent, surveillent et parfois empêchent l'usage de la musique et qui sont au cœur de ce projet de loi. Mes invités sont Marc Guez de la Société civile des producteurs phonographiques, FX Nutal de la Confédération internationale des sociétés des autocompositeurs et Christophe Espern de l'initiative EUCD Tiffen.info. Bonjour messieurs et merci d'être là en direct.
Bonjour Ali. Bonjour.
Alors Tiffen, artiste, a du mal avec le sujet des DRM. Promettez-moi que c'est quelque chose qui est possible de rendre moins impressionnante FX Nuttall.
On va essayer de faire les choses simples et compréhensibles aujourd'hui.
Musique.
Musique système disque.
Journée chargée mercredi pour le ministre de la Culture Renaud Denedet-Vabre. Il s'est adressé à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale pour présenter les derniers aménagements à son projet de loi sur les droits d'auteur. Et il a inauguré au Palais de Tokyo, à côté du ministre de l'Économie Thierry Breton, le site lestéléchargements.com. Il a profité des deux rendez-vous pour assurer qu'il n'y aura pas de prison pour les internautes qui pratiquent le peer-to-peer, mais par contre les sanctions pour les éditeurs de logiciels destinés à favoriser le piratage. Le nouveau site se veut un lieu de dialogue entre les artistes et les internautes sur le téléchargement de musique et de films et son impact sur les droits d'auteur. Le ministre a souligné que le site, je cite, n'est pas un organe de propagande, il est libre. J'ai interrogé Thierry Breton sur le motif de sa présence en tant que ministre de l'économie.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on rentre dans une phase où ces technologies de l'information changent notre façon de dialoguer, notre façon d'apprendre, notre façon de communiquer, notre façon de créer aussi. C'est donc un pan nouveau qui s'ouvre à nous et c'est un pan qui a des implications économiques. Et il est tout à fait normal et naturel que le ministre de l'économie s'intéresse à cette affaire. Alors c'est dans un esprit du reste que j'apporte tout mon soutien au ministère de la Culture dans ses initiatives pour favoriser le dialogue entre les internautes et les artistes. Mais je dirais qu'au-delà de cela, j'ai désormais mis mon ministère sous l'impulsion de l'économie de l'immatériel, à savoir réfléchir à la façon dont on crée de la richesse, dont on la redistribue, à savoir aussi réfléchir quel est le patrimoine immatériel de l'État. Nous avons un patrimoine gigantesque, il n'est pas valorisé aujourd'hui, on ne sait même pas, on ne l'identifie pas. Donc voilà une mission que j'ai confiée à mes services et que je rendrai publique prochainement.
C'était le ministre de l'économie Thierry Breton que j'ai rencontré lors de l'inauguration du site lestéléchargements.com. À part les politiques, il y avait du beau monde et vous entendriez dans Système 10 les réactions des artistes présents à la soirée. France Inter est fier d'être partenaire du disque Mr. Gainsbourg Revisited, sur lequel les artistes anglophones reprennent les chansons de Serge, avec entre autres France, Ferdinand, Cat Power, Gonzalez, The Rakes, Michael Stipe et ici Marianne Faithfull.
How do you dare talk of love if you've never known Lola Rasta Quell? She thought she was a he thought he was a she, but neither of them knew really. Crossing her legs round a fireman's pole, a shabby cat house, the happy few, stripper on a string, foot in the queue. You had to put wages for the ultimate view. Cyclops eye in the middle of your head, an Oedipus complex dug deep in the sea. And when all's been done and nothing's been said, you leave the joint and go to sleep. You run your fingers through her hair. Between you and me, her lips don't give a damn. She'll go down on you, still breathing air. The sun starts to rise, so do you, if you can.
Jacques, non, est-ce que vous savez ce que c'est un DRM?
Non, pardon, c'est quoi?
C'est des mesures techniques de protection.
Ah oui, bien sûr, ouais.
Est-ce que vous êtes d'accord qu'on on met sur votre disque?
Ouais, tout à fait d'accord, évidemment. Disons que c'est comme si on disait, est-ce que je suis d'accord ou pas qu'on braque mon canapé, mon lit ou je ne sais quoi. Et de prime abord, je suis d'accord pour qu'il y ait des clés à la porte de chez moi, parce que fuck off, faut quand même pas déconner non plus.
C'était Jack No qui parle des DRM. Jack No qui sort un nouvel album le 15 mai qui s'appelle Tant de temps. On parle des DRM, les mesures techniques de protection. Aujourd'hui, dans Système Disque, avec mes invités Marquez de la Société Civile des Producteurs Phonographiques, FX Natal de la Confédération Internationale des Sociétés des Autocompositeurs et Christophe Esperne de l'initiative EUCD.fo. François-Xavier Natal, vous êtes un consultant auprès de CISAC sur le marché digital. Vous travaillez dans le monde digital depuis fort longtemps, et spécifiquement sur les DRM depuis plus de 10 ans, je pense. Vous avez fondé la société AudioSoft basée dans la Silicon Valley en 1996. Alors, qu'est-ce que c'est un DRM? Quand est-ce qu'ils ont fait leur apparition?
Alors les DRM, c'est tout ce qui regroupe en fait la protection des contenus. C'est un mini coffre-fort électronique en fait dans lequel on va mettre de la musique, on va mettre de la vidéo et ça va permettre de contrôler un petit peu l'utilisation qui en est faite. Donc ça c'est la définition la plus simple qu'on puisse trouver.
D'accord, on appelle aussi c'est ça, les verrous. Des verrous. Christophe, vous me regardez avec les yeux, genre, laissez-moi dire quelque chose tout de suite.
Non, mais enfin, DRM, ça veut dire donc Digital Right Management, et nous, on a plutôt tendance à appeler ça Digital Restriction Management, puisque ça pose des restrictions à l'usage des œuvres dans la sphère privée, chez soi, et ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent librement. Maintenant, la technique pourrait l'empêcher, en fait.
D'accord. On va parler de tout le spectre des DRM, et il faut juste savoir quand ils ont apparu la première fois, qui les conçoit, qui les installe, FX.
Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on parle de, peut-être pas le mot DRM qui lui est apparu il y a à peu près 6-7 ans aux États-Unis, mais le principe même d'essayer de restreindre un petit peu la copie est apparu dans les années 90 avec le DAT, qui était une des premières technologies numériques, le DAT, Digital Audio Tape.
C'était les petits
cassettes d'enregistrement numérique pour la maison, et ils avaient déjà mis en place un système anti-copie dans cette technologie-là. Mm-hmm. Mais le vrai DRM, c'est en fait depuis que l'Internet a connu une explosion avec les contenus musicaux.
Et pas avec les CD, forcément, alors, avec les...
Alors, les CD, c'est une technologie qui a, elle, un peu plus de 20 ans, 1985 à peu près, et à l'époque ne se posait pas le problème, en fait, de la copie à grande échelle. Donc, dans le CD compact disque, il n'y avait pas de technologie anti-copie.
Mm-hmm. Alors, comment ça marche? Comment tracer les titres, justement? Savoir où ils sont, comment ils circulent?
Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de trouver une formule qui fasse la satisfaction de tout le monde, c'est-à-dire qu'on puisse en même temps que le consommateur s'y retrouve, que l'ayant droit s'y retrouve, et on essaie de trouver une formule un peu équilibrée. Aujourd'hui, c'est soit un petit peu sauvage, donc le peer-to-peer, le MP3, etc., où il n'y a aucun contrôle, ou alors c'est parfois un peu trop restrictif. Et comme disait Christophe, l'utilisateur, il voit plutôt une restriction à sa liberté qu'un mode d'utilisation. Donc l'exercice, ça va être de trouver la balance, le bon équilibre.
Et ça, c'est pas facile.
Aujourd'hui, c'est pas facile, parce qu'on a un parc de matériel qui ne permet pas le contrôle de la copie, et il y a toute une encore une éducation à faire au niveau du public et même des ayants droit des professionnels.
Christophe Esperne.
L'équilibre est pas facile à trouver, tout simplement, parce qu'il est difficile déjà de prévoir ce que vont faire les gens chez eux quand ils achètent une œuvre, quand ils obtiennent une œuvre. Et jusqu'à présent, l'équilibre était dans la loi. Il n'était pas dans la technique. Et c'est-à-dire que là, avec le DRM, il y a un glissement. C'est-à-dire que la technique se substitue progressivement à la loi. Et ce que l'auteur, en l'occurrence, ne pouvait interdire, par exemple, la copie privée sur le support de son choix ou la lecture avec le matériel de son choix, sous couvert de droit d'auteur, on commence à pouvoir justement interdire tel ou tel outil pour lire, tel ou tel outil pour copier, alors que ça, le droit d'auteur le concédait pas. Il y a des risques pour le consommateur, en l'occurrence, de vente liée, c'est-à-dire on va vendre un contenu, il va falloir acheter un type de périphérique ou un type de logiciel donné pour pouvoir lire ce contenu, alors que si j'achète un livre, je peux le lire avec n'importe quelle paire de lunettes. Je suis pas obligé d'acheter un livre Nathan, et je vais pas le lire avec des lunettes à flelou obligatoirement. Je peux choisir la marque de lunettes que je veux.
Alors, on les appelle aussi des Big Brothers, c'est-à-dire on peut aussi surveiller ce qu'ils font les gens, forcément. Même on dit qu'il peut-être on va glisser des pubs dans les ordinateurs à cause de ça, les messages. Alors, j'aimerais bien parler de ce débâcle de Sony et BMG, parce que beaucoup d'auditeurs m'écrivent pour me demander qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que mes invités en pensent. C'est-à-dire, ils ont mis les DRM sur les CD, et quand les gens ont mis ces CD dans leur ordinateur, ça a introduit un virus. Peut-être Marquez pouvait commenter
oui,
ça.
Oui, avant de répondre à cette question, je vais y répondre bien sûr, mais je pense qu'il y a une confusion entre les DRM et les mesures techniques de protection. Les DRM, c'est fait pour les fichiers en ligne. C'est différent des mesures anticopie qu'il peut y avoir sur les CD. Et donc les DRM, c'est pas un Big Brother du tout, parce que les DRM fonctionnent bien tout à fait autonome d'une connexion informatique quelconque. Donc il n'y a pas de restitution d'informations à qui que ce soit avec un DRM. Donc il ne faut pas dire que les DRM c'est Big Brother, ce n'est pas Big Brother. Vous pouvez couper votre micro, votre connexion Internet, le DRM fonctionnera toujours. Il est lié à un lecteur et au fichier que vous avez acheté. Il est indépendant d'une connexion Internet. Une fois que vous avez téléchargé, vous pouvez la couper, il n'y aura pas d'envoi d'information à qui que ce soit. Alors, par contre, le problème de Sony BMG, c'est pas vraiment un problème de DRM, c'est un problème de mesure anticopie sur des CD, donc un autre type de technologie, pour lesquels il y a, et c'est connu, des problèmes de lecture. Et Sony BMG, d'après ce que je peux savoir aux États-Unis, a choisi une technologie d'origine anglaise qui était censée ne pas poser de problème de lecture. Et malheureusement, elle posait un autre problème, qui effectivement, c'est que la sécurité tenait à l'installation d'une partie logicielle dans la zone racine du micro-ordinateur. Donc, c'est une zone qui n'est pas atteignable normalement. Qui n'est pas atteignable par le particulier. Seuls les opérateurs système peuvent atteindre cette zone. Et effectivement, la sécurité était à ce prix, mais elle entraînait une faiblesse dans la protection du micro. Et compte tenu de ce risque, c'était un risque. Bien sûr, ils ont arrêté de commercialiser ces CD, ils ont remboursé les personnes qui avaient acheté ces CD, ils les ont indemnisés. Donc Sony a réagi de manière, je dirais, responsable à un problème qu'il n'avait pas vu venir, je suppose, qui faisait qu'il y avait un risque pour les ordinateurs. Les DRM en tant que tels ne créent pas de risque pour les ordinateurs et ne créent pas de problème pour la protection de la vie privée.
Donc c'est les mesures techniques de protection.
Alors, il y a quand même le problème des DRM, c'est la confusion des terminologies aussi. C'est-à-dire qu'on met énormément de termes et il y a des concepts flous. Il y a des gens qui sont penchés sur la problématique des DRM, en l'occurrence la problématique de la sécurité. C'est par exemple le député Laborde qui a remis un rapport sur la sécurité des systèmes d'information. Et lui, il est très clair. Il parle donc des nouveaux systèmes de DRM, de mesures techniques de protection. Pour nous, une mesure de protection, c'est un DRM qui est protégé par la loi, tout simplement. Sinon, c'est la même chose. Et il dit, pour certains, les limitations d'usage donc de ces DRM sont justifiées par le développement du commerce électronique et la gestion sûre des droits de propriété intellectuelle. L'industrie des médias et des services le réclame, mais en restreignant les droits de l'utilisateur, il donne un droit de regard aux constructeurs de matériel, de logiciels, de l'usage fait des ordinateurs personnels. Cela pose un problème pour la mise en cause, cela remet en cause l'autonomie des individus et des organisations, restriction des droits d'un utilisateur sur sa propre machine, cela constitue une menace en plus évidente à la souveraineté des États. Donc il y a un problème de sécurité pour les individus, les organisations et plus largement les États. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un ordinateur personnel, c'est une propriété privée, on est chez soi quand même, c'est son ordinateur, et quand on met un CD qu'on a acheté dedans, on doit pouvoir assurer sa propre sécurité, et on va pas, c'est pas un dispositif technique imposé par un producteur qui peut prendre la main sur la machine, comme ce qui s'est passé avec Sony BMG, et émettre des données. Et moi, je suis pas convaincu qu'à l'avenir, dans un monde où on va être tous interconnectés en permanence, que les DRM vont pas émettre en permanence des données personnelles, et c'est bien là tout le risque, et c'est la CNIL et toutes les autorités de protection des données personnelles sont extrêmement inquiètes sur ces points-là. Il y a eu plusieurs cas qui démontrent qu'il y a des fuites de données personnelles, et ça, c'est extrêmement inquiétant.
Eddie Mitchell, est-ce que vous savez ce que c'est un DRM?
Non.
C'est une mesure technique de protection qu'on met sur les disques, sur les fichiers digitales.
Ah oui, c'est vrai. Bon. Je suis un peu perdu, mais c'est vrai que je connais bien. Bah, je suis pour, mais en même temps, c'est aussi une attaque aux consommateurs dans la mesure où on n'est pas obligé d'avoir l'appareil qui correspond. Il faudrait donc changer tous les appareils, donc c'est pas jouable.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'imagine que vous voulez pas qu'on vole entre guillemets votre musique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire?
Faut plus en faire.
Eddie Mitchell qui dit que ça devient tellement compliqué, il faut arrêter de faire la musique. Je pense que c'est une blague, j'espère en tout cas, Mr. Eddie. John Kennedy, président de la Fédération internationale de l'industrie phonographique, a fait le voyage à Cannes en janvier pour le MIDEM. Il m'a accordé quelques minutes pour un entretien. Je lui ai demandé son avis sur les DRM et les problèmes de l'interopérabilité, c'est-à-dire d'écouter la musique comme bon nous semble sur tous les supports.
Dans le monde physique, après l'expérience Sony BMG, l'image des DRM est brouillée. Je ne sais pas ce qui va se passer en 2006. On ne devrait pas abolir les DRM dans le monde de la musique en ligne. Ce sont eux qui permettent aux consommateurs d'écouter 30 secondes de musique gratuitement, de payer un tarif pour emprunter un titre, un autre pour l'acheter, un autre encore pour le mettre en streaming. En fait, les DRM ont besoin d'un attaché de presse pour la musique en ligne. Les DRM sont utiles. C'est eux qui ont fait qu'iTunes est possible. C'est eux qui ont permis le développement des DVD. Ils ont beaucoup d'aspects positifs. Les gens focalisent sur les négatifs. C'est mon boulot et celui de l'industrie musicale de changer cela en 2006. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement français veut s'attaquer à l'interopérabilité. Je crois qu'il va résoudre ce problème avant d'autres gouvernements. Ça, c'est l'aspect positif de la discussion actuelle en France.
C'était John Kennedy, président de l'IFPI, que j'ai rencontré au dernier MIDEM. Christophe Espern, j'ai vu que vous aussi, vous avez des sourcils que je vois de loin, donc quelque chose vous a interpellé par le propos de John Kennedy.
Moi je repensais qu'effectivement ça fait très très longtemps qu'on parle comme ça de vouloir, et entre guillemets, hein, sécuriser donc les contenus. Aux États-Unis, il y a eu une, parce que là on fait une loi en fait qui protège des dispositifs techniques qui doivent protéger les œuvres protégées par le droit d'auteur, donc on empile un peu les protections. Il y a une loi comme ça qui existe aux États-Unis. Donc déjà, si les mesures techniques fonctionnaient, il n'y aurait pas besoin de les protéger juridiquement, puisque elles auraient leur efficacité technique. Mais on les protège juridiquement. Aux États-Unis, on a fait ça il y a 10 ans, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que quand j'entends là les DVD sont protégés, le dispositif donc de, qui devait permettre de contrôler la copie de DVD a été très rapidement contourné. Il a été contourné d'ailleurs pour permettre une lecture, parce que dans l'ère du numérique, toute copie est lecture. Et les DVD, actuellement, on peut les copier. D'ailleurs, dans la loi française, c'est légal de copier un DVD. Donc on peut copier les DVD, ça a toujours été le cas. Et la protection juridique, donc la loi qu'on a créée pour empêcher le contournement, n'a pas servi. Le peer-to-peer a explosé, etc. Et actuellement, ces technologies ne fonctionnent pas. Ou il faudra aller tellement loin qu'on revient sur les problématiques que j'ai citées tout à l'heure de sécurité informatique et de souveraineté de l'État. Donc moi, personnellement, je pense que c'est une impasse. Et c'est pas une attachée de presse ou un discours sur l'acceptabilité qui va permettre de les faire accepter par le consommateur.
FX Nuttall.
Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, en fait, sur la perception de la DRM. Parce que au niveau des ayants droit, on va dire oui, c'est sécurisé, et puis en fait, vous allez acheter de la musique en ligne, et on vous dit, vous pouvez commencer à graver des CD, puis à graver encore d'autres CD. Donc en fait, la protection n'est pas réelle, c'est une protection un petit peu virtuelle qu'on nous offre. Et puis le consommateur, lui, il a l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire qu'il il a pas de compatibilité entre ces différents appareils. Il va acheter sur un magasin, il achète un autre appareil, il peut pas lire dessus. Donc il y a une frustration inhérente à la DRM telle qu'elle est implémentée aujourd'hui.
Justement, Marquez, c'est ça que j'ai envie de dire, que les gens sont vraiment contrariés, c'est l'accès à la culture qui est mise en jeu. Est-ce que ce n'est pas cela qui le résultat, c'est la baisse de vente des disques aussi, je pense. Je me demande, parce que les gens sont vraiment frustrés par tout ça.
Bah, apparemment, pas autant que vous le dites, parce que les gens qui mettent des protections sur leur CD, si on parle des systèmes de protection et puis des DRM réellement, hein, comme EMI, toute leur production pratiquement est équipée d'un DRM, hein, ont connu une progression de part de marché phénoménale. Donc à partir du moment où en fait les artistes, les CD sont bons, la qualité de l'album est bonne, les gens achètent. Les problèmes de lecture qu'il peut y avoir, ou les contraintes posées par les DRM, visiblement ça n'empêche pas le public d'acheter ces supports. La baisse du marché du disque, elle n'est pas liée au DRM. Il y a à peu près, je crois, 5% des CD qui sont protégés. Et la baisse du marché en 3 ans, c'est 30%. Donc c'est pas les protections qui font que le consommateur achète moins. Par ailleurs, je voudrais revenir sur un des propos qu'a tenu le représentant de CD Info. Les problèmes de sécurité qui peuvent se poser, c'est pas lié à des DRM, c'est lié à d'autres concepts qui ne sont pas des DRM. Il y a de l'amalgame qui est fait dans tout ça. Alors, les autres projets qui existent, qui viennent notamment d'Intel ou de Microsoft, ça concerne la sécurité des processeurs informatiques. Ce sont des projets qui sont sur les plans, qui sont en projet, hein, qui n'existent pas aujourd'hui, hein, dont on fait la confusion avec les systèmes de protection des œuvres, qui n'ont rien à voir avec ça, et qu'effectivement, ces systèmes-là sont destinés à ne faire fonctionner sur un processeur que des logiciels licites. Mais des logiciels. On n'est pas du tout dans la protection des œuvres. Là, effectivement, il y a des restrictions d'usage du consommateur qui sont possibles. Hein. Il pourra pas utiliser un logiciel pirate, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec les DRM, qui, eux, simplement limite le nombre de copies ou d'usages que peut faire le consommateur à ce qu'il peut faire à titre privé. C'est-à-dire que le rôle des DRM, c'est de réconcilier en fait les intérêts des ayants droit, des créateurs et du consommateur, en disant il y a un domaine de votre copie privée qui est extrêmement large. Dans ce domaine-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a un DRM. Par contre, quand vous en sortez...
C'est-à-dire pour faire des copies...
C'est réellement ce que veulent les producteurs, en tout cas.
C'est-à-dire qu'on peut faire un certain nombre de copies pour écouter chez nous, sur plusieurs ordinateurs, pour faire écouter à nos amis, nos proches.
Vous pouvez le copier sur plusieurs micro-ordinateurs, vous pouvez le graver sur autant de CD que vous voulez. Vous pouvez le transférer, je crois, une dizaine de fois sur votre iPod. Donc, ça évolue. Effectivement, si les consommateurs copient plus dans leur environnement privé, on augmentera les capacités pour correspondre au domaine privé du consommateur. Mais par contre, si effectivement vous l'envoyez à un tiers, ce même fichier, le tiers ne pourra pas le lire. C'est là où le DRM joue son rôle. Il évite la piraterie, mais il n'empêche pas la copie privée.
Alors, est-ce que Christophe Espern, vous voulez commenter ?
Enfin, moi, je pense que les DRM, si on se rend dans une logique de vouloir, par exemple, faire basculer une partie des utilisateurs, donc qui vont sur les réseaux peer-to-peer et qui téléchargent sans autorisation vers des systèmes payants, c'est sûrement pas en mettant des freins à l'usage comme les DRM, alors qu'il y a des habitudes qui ont été prises, qu'on va réussir à le faire. Moi, je pense que dans la sphère privée, c'est-à-dire que quand je suis chez moi, je fais ce que je veux, et c'est pas un logiciel ou un matériel qui va me dire ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire, parce qu'on introduirait une présomption de culpabilité, c'est-à-dire qu'on me traiterait comme un coupable par avance, parce que je serais susceptible de remettre à disposition. Après, il y a la responsabilité individuelle des gens, et qu'il faut quand même prendre en compte, et moi, je trouve ça extrêmement dangereux de vouloir que la loi ou le contrat puisse être contrôlé par la technique sur des périphériques personnels. Je suis informaticien, ce que vous avez dit, donc sur NSGCB, c'est faux, parce que NSGCB sert justement, c'est
les
futures protections techniques qui ont été évoquées, donc Intel et Microsoft. Ça sert à protéger le contenu et ça permet de prendre la main sur une partie du disque dur d'ordinateur et de la mémoire vive de l'ordinateur, et c'est une vraie intrusion sur la machine, et c'est un petit peu une expropriation en fait de l'utilisateur de sa propre machine. Donc ça, c'est vers quoi il faudrait tendre pour que ça soit efficace. Et je dis pas qu'on y est, je dis que c'est ce vers quoi il faudrait tendre. Maintenant, les mécanismes actuels ne fonctionnent pas et ne créent plus d'ennuis pour les consommateurs honnêtes que pour les gens qui veulent contrefaire. Et ça, je pense que c'est important de le dire, c'est les consommateurs honnêtes qui sont pénalisés par ce type de dispositif, et sûrement pas les gens qui veulent se procurer gratuitement, et encore moins ceux qui font de la contrefaçon industrielle.
Parce qu'il y a les deux monstres sacrés, Microsoft et Apple, qui nous mettent un peu dans le merdae. Je veux dire, c'est eux qui veulent pas ouvrir leur système. FX, est-ce que vous voulez commenter?
Non, je mettrai pas la responsabilité sur...
Non, c'est pas la responsabilité, mais quand même, les industriels nous dictent un peu, là.
On a un problème en ce moment, qu'on est un peu en phase de transition, je dirais. La technologie qu'on a aujourd'hui, donc la technologie du compact disque, du MP3, de l'Internet et tout ça, l'ordinateur qui est un peu ouvert, ne nous permet pas de mettre en place une DRM ou un mode de gestion des droits qui soit acceptable par tout le monde. Parce qu'on a des limitations techniques, on peut pas aller au-delà. Donc je crois qu'il faut commencer à réfléchir un peu plus loin, aller voir après la génération CD enregistrable, la génération des cartes à puce, sur lequel on pourra stocker la musique beaucoup plus facilement. Et là, on pourra mettre en place un système de DRM un peu plus conforme à ce que tout le monde attend. Et d'ailleurs, la CISAC lance un projet international de assez grande envergure pour essayer de regrouper les professionnels et de discuter justement qu'est-ce que cette DRM pourrait bien faire, mais dans le bénéfice de tous. C'est pas contre le public, c'est pas pour le bénéfice d'une ou deux corporations. C'est vraiment dans un esprit un peu plus démocratique, mais en se projetant un peu dans l'avenir.
Louis Bertignac, est-ce que vous savez ce que c'est le DRM ?
Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais, c'est des protections sur les disques vendus en magasin. Je suis contre ce genre de protection. C'est pas pour éviter qu'on copie le disque chez soi. Ils font ça pour éviter de le retrouver sur le peer-to-peer. Mais c'est une solution débile, ça, techniquement c'est idiot, parce qu'on la contourne comme on veut. Et en fait, ça gêne les gens qui ont acheté, qui ont payé. Donc c'est complètement con.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit. Et je sens que son amour est gris et puis... Elle me soupçonne d'être avec toi. Le soir, je reconnais, c'est vrai, tous les soirs. Dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours ma ferme. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la nuit. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les lions, les noms de Dieu, sublime décadence, la danse dépense. Ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel, cruel, celui qui oppose Paris les roses et Bruxelles à Brutis, qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus telle que tu m'as connue. Je serai abattu, combattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends. Paris, je te laisse mourir.
Alain Bachung, extrait de l'album Le Grand Dîner, tribute à Dick Arnagan qui sort chez Tôt ou Tard avec France Inter, et on est tous, on n'a rien dit tellement c'est beau dans le studio.
Bas, est-ce que vous savez ce que c'est une DRM?
Non, mais c'est-à-dire c'est une puce qui empêche qu'on copie le CD, c'est ça?
Souvent, oui.
Ouais, bah c'est bien ça. Et moi je suis pour qu'on se fasse confiance les uns les autres, voilà quoi. D'un côté je trouve ça vraiment con de voir fliquer tout ce système. Je pense que ce soit des ados de 15 ans qui s'éclatent à télécharger des trucs. Pour moi, les choses seraient tellement plus simples, je sais pas, on devrait dire, voilà, les artistes morts, on peut les télécharger tranquille. Ceux qui ont vendu de plus de 100 000 albums aussi, vu que ça n'a pas non plus porté préjudice à leur quotidien. Et puis que les autres, qu'on garde la menace. Si ça va trop loin, s'il y en a un qui se croit plus intelligent, qui va en faire un bise, par contre, qu'on puisse lui tomber sur dessus, lui mettre une amende à ce petit con.
C'était Camille Bas-Bas que j'ai rencontré l'autre soir à l'inauguration du site lestéléchargements.com. Je vais juste revenir un petit peu, Marc Guest, sur cette histoire de Microsoft et Apple. J'ai une auditeur qui m'écrit, qui dit « Je veux bien causer avec vous des droits d'auteur, mais ce que je veux plus engraisser, c'est les casiers fonctionnaires des sociétés de perception de droits d'auteur, vive les blogs de musique en live. Si on nous emmerde avec les verrues, on écoute la musique, exemple du droit, etc. etc. » Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Apple et Microsoft?
Apple a toujours une stratégie d'avoir des systèmes propriétaires. Ils construisent leur micro-ordinateur, leur processeur, leur système d'exploitation. C'est un système fermé, depuis toujours. Donc quand ils ont mis à faire de la musique sur iTunes et des iPods, ils ont gardé le même principe. Microsoft, c'est pas la même stratégie. Microsoft est favorable à l'interopérabilité des DRM. Il participe aux travaux des normes internationales comme MPEG, qui sont des normes ouvertes. N'importe qui peut utiliser le produit. Une de leurs filiales, qui est ContentGuard, qui a créé en fait le principal DRM de Microsoft, a donné sa technologie à cet outil de standardisation qui est MPEG. Donc Microsoft n'est pas hostile à l'interopérabilité. Apple, oui, parce qu'effectivement, parce qu'une culture d'entreprise. Et on espère arriver à les faire bouger. Si on n'arrive pas à les faire bouger, c'est vrai que dans le projet de loi tel qu'il est, il y a un moyen pour avoir la concurrence de les forcer à le faire. C'est un bon moyen, parce que la concurrence, c'est aussi fort que le droit à la propriété intellectuelle en matière de droit. Et puis sinon, tout simplement, il y a d'autres gens qui, notamment des industriels, dans le projet Coral, qui essayent de trouver des systèmes de lecture qui pourraient lire n'importe quel type de contenu et le rendre interopérable. Donc l'intériorité pour nous, c'est un problème aujourd'hui. Je pense que dans un an et demi, ça ne le sera plus. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est un gros problème pour le consommateur parce qu'il ne peut pas lire son contenu qu'il a acheté légitimement sur n'importe quel appareil.
Alors, Christophe Espern, vous êtes une grande défenseur évidemment des logiciels libres. Ils sont compatibles ou pas avec des DRM?
Le logiciel libre, nous, ce qu'on propose, c'est déjà de passer par la prévention, l'information. C'est-à-dire que ce qu'on avait proposé il y a plusieurs années, on avait discuté lors de tables rondes avec des ayants droit d'ailleurs, on leur avait dit ce qui serait bien, c'est déjà d'informer les gens. Leur dire, voilà, vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous risquez ça si vous mettez à disposition, etc. Maintenant, sur la question du logiciel libre proprement dit. Le logiciel libre, c'est un logiciel où on vous donne la recette de cuisine. Donc, vous pouvez étudier le fonctionnement et vous pouvez, si vous avez certaines compétences techniques, modifier le logiciel, par exemple, pour faire une copie du contenu, même si le titulaire de droit a décidé, par exemple, que vous vouliez pas faire de copie. Ce qui, à présent, en France, serait pas légal, puisque je rappelle quand même que les titulaires de droit n'ont pas le droit d'interdire la copie à des fins d'usage privé. Mais le problème qu'a eu le logiciel libre avec le projet de loi qui a été proposé, c'est qu'on mettait en place une protection par le secret. Et c'était complètement opposé au concept de logiciel libre, qui est le code source ouvert. Donc, on remet le code source. Donc, on se retrouve avec un antagonisme entre, d'une part, il y avait le secret, il fallait pas parler du fonctionnement, parce que le problème, c'est que dès qu'un DRM est contourné, hop, le moyen permettant de contourner, quand j'ai un logiciel, se diffuse sur Internet de la même façon qu'un contenu, tout le monde l'a et tout le monde contourne. Et donc le DRM tombe de lui-même, et c'est comme quand il y a un contenu qui est contourné une fois, il est mis en ligne et automatiquement il se diffuse. Donc c'est selon nous, un fichier, créer des fichiers incopiables numériquement, c'est un peu comme l'eau sèche. C'est un truc, c'est extrêmement difficile à concevoir, et les gens du logiciel libre, eux, veulent simplement pouvoir diffuser des logiciels permettant la lecture et la copie à des fins d'usage privé, etc. Ce qui s'est passé, c'est que, au cours des débats, on s'est rendu compte que, il y avait un antagonisme qui apparaissait entre logiciel libre et contrôle d'usage au sens efficace. Là, je parle du contrôle d'usage parce que le problème de DRM, on met tellement de choses avec. Nous, on raisonne sur des dispositifs de contrôle d'usage, de nombre de lectures, de durée de vie du fichier sur votre ordinateur, etc. On raisonne là-dessus. On raisonne pas sur le terme de DRM, qui est un terme extrêmement flou. Si on veut faire du contrôle d'usage efficace, dur et que personne pourra contourner, le logiciel libre, par essence, vu qu'on donne le code source aux gens et qu'on leur permet de le modifier, des licences qui le permettent, c'est pas compatible, c'est antagoniste entre l'ouverture et le contrôle.
Et Fix Natal?
Je voulais revenir sur Apple et Microsoft, parce que ce sont quand même des gens ou des objets avec qui on travaille tous les jours, enfin, on interagit tous les jours. Alors, quand Marguez disait tout à l'heure, Apple n'est pas compatible avec les autres systèmes. C'est vrai et pas vrai. Encore une fois, c'est là où est l'ambiguïté des DRM aujourd'hui. C'est vrai que l'intégration du magasin iTunes avec l'iPod, c'est une intégration qui est fermée. D'accord? Et qui, de
si
part...
Si on achète iTunes, il faut forcément le mettre sur son iPod. Et pas sur un autre baladeur.
Par défaut, oui. Par défaut, il faut écouter sur son iPod. Mais Apple a quand même implémenté une fonction qui est exportée vers le MP3. Donc ça veut dire ils ont ouvert une porte en disant, si vous voulez, vous pouvez enlever la DRM. Il suffit de cliquer en haut à gauche de l'interface. C'est expliqué dans le mode d'emploi de iTunes. Vous pouvez enlever la DRM et aller sur une autre plateforme. Aller sur un baladeur MP3, sur un baladeur d'une autre marque. Donc en fait, c'est cette vraie fausse DRM qui est en place. Et je crois qu'il faut qu'une solution de DRM qui plairait à tout le monde doit passer par un dialogue avec ces sociétés-là. On ne peut pas s'en affranchir.
Marguez?
Oh, je suis tout à fait d'accord avec vous, bien sûr. Oui.
Et Christophe?
On voit bien, le consommateur lui réclame de la vraie interopérabilité. Il la trouve actuellement via le MP3, donc on lui donne une fonctionnalité pour faire un MP3. Et de la même façon, Microsoft permet de faire une gravure du CD, enfin du contenu sur un CD, et les gens prennent le CD et récupèrent en MP3. Et la vraie interopérabilité, elle est bien sur le MP3, parce que c'est un format que tout le monde peut lire partout.
Okay.
Mais c'est là encore, il faut évoluer, parce que le MP3, par exemple, encore une fois, l'exemple iTunes vous dit, vous avez le droit de graver 7 CD. Pas un de plus, et pas un de moins. Mais en fait, à partir du premier CD, on peut déjà faire 1 million de copies. Donc, je veux dire, c'est un petit peu faux comme langage, comme terme de licence.
Et comme disait Bas, il faut faire un peu confiance aussi aux gens. Je sais pas, Marguez, on fait confiance aussi. Tout le monde n'est pas là pour faire la contrefaçon. On va écouter notre musique tranquillement avec nos amis.
Non, mais si on faisait pas confiance, on n'autoriserait pas la gravure de CD qui déplombe complètement la protection. Non, effectivement. Non, si vous voulez, il y a un problème en général dans la perception du public, c'est que tout ce qui est permis techniquement est considéré comme étant légal. Et c'est vrai que le DRM, indirectement, c'est, ça permet aussi de mettre des limites à ce qui n'est plus légal dans la copie. La copie privée, c'est légal. La piraterie, non, bien sûr. Donc, l'idée est bien sûr de commencer à mettre effectivement des ces limites dans l'esprit du public pour qu'il sache que tout n'est pas possible, tout ce qui est techniquement possible n'est pas toujours légal. Et par ailleurs, l'autre avantage surtout des DRM, c'est pas le côté anticopie, c'est pouvoir proposer effectivement au public des formules d'achat différentes. C'est-à-dire, vous pouvez l'acheter effectivement un titre aujourd'hui sur iTunes à 1 euro le titre, vous l'avez à vie si vous le souhaitez, mais vous pouvez aux États-Unis, j'espère ça va arriver bientôt en France et en Europe, pour 10 euros par mois, télécharger tout ce que vous voulez.
Oui, mais après,
la différence, c'est que c'est la location.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire mais que ça, vous achetez de la musique que vous ne pouvez pas garder.
Vous pouvez la garder, mais il faut que vous puissiez la garder.
Non, mais je veux dire que si jamais votre souscription termine.
Un peu comme une location de voiture longue durée, oui, en fin de bail, vous pouvez racheter aussi.
Ah ouais, mais acheter deux fois la musique,
je trouve ça... Non, c'est pas deux fois. Quand vous achetez votre voiture, en fin de bail, vous avez une option d'achat, c'est pas le même prix que du neuf. Bien sûr que non. Donc c'est pareil dans la musique. Ça permet donc effectivement d'abaisser terriblement les prix. Parce que chacun peut mesurer la différence entre acheter un appartement et le louer. Donc ça permet effectivement de faire terriblement baisser les prix de l'accès au public à ces contenus par des formules effectivement différentes du simple achat qui est le plus coûteux.
Ça, c'est un raisonnement de biens physiques vers des œuvres culturelles. Il y a la culture, on crée un patrimoine personnel, une médiathèque, etc. Et ensuite, on la transmet à ses enfants. Et il y a un vrai rapport qui pourrait changer si on commençait à autoriser ces modèles-là, qui seront bien évidemment sans doute plus rentables. Et on observe en plus un transfert des modèles de la téléphonie, donc des télécoms, qui sont des réseaux propriétaires où ils contrôlent qui émet, comment émet les périphériques, dont les téléphones portables. Je peux pas aujourd'hui créer un téléphone portable et me brancher sur le réseau SFR. Je peux aujourd'hui créer un logiciel et communiquer sur Internet en utilisant les standards ouverts, justement, qui sont la base d'Internet. Et on assiste, pour mettre en place les modèles de location, à une tentative d'imposer, justement, ce modèle propriétaire où tout est contrôlé par l'opérateur du réseau téléphonie mobile vers Internet, ce qui, à mon sens, ne fonctionnera absolument pas, parce qu'Internet n'est absolument pas basé sur cette logique-là de technologie propriétaire et d'opérateurs qui contrôlent le réseau. Donc ça ne fonctionnera pas. Et puis, il y a un problème, je pense, de société, de savoir est-ce qu'on veut que la musique soit juste quelque chose d'évanescent, la culture soit quelque chose d'évanescent, et qu'on ne la stocke plus, et qu'on n'ait plus de patrimoine.
Depuis 17 heures, on parle des choses très techniques, mais dans l'industrie musicale, ça se passe parfois encore d'une façon artisanale. C'est le cas de Boogie Balagan, un groupe de musiciens israéliens qu'Elsa Boublil a rencontré par hasard au détour d'un café. Ils croient à leur démarche et elles fonctionnent qu'à grâce à leur préservance.
Ça, c'est la mallette de Boogie Balagan. C'est le nom du groupe, oui.
Balagan, c'est le bordel.
En hébreu, ouais. Voilà, donc on se trimballe avec ça dans toutes les rues de Paris. Et c'est comme ça qu'on démarche et on vend notre coffret collector qui s'appelle le Traffic Command Box. Le Traffic Command Box, voilà, c'est fait avec du pain zine. Donc voilà, c'est nous qu'on le fait à la main, quoi. On fait tout à la main, le livret, le coffret, voilà, tout se fait à la main.
Et c'est une vraie galette de pain azim.
C'est une vraie pain, ouais, c'est la vraie matza, quoi. Tu veux goûter, hein? Ouais, elle est vernie, on ne peut plus la manger. Elle a quitté
la Casbah. Dans cette mallette, il y a des albums, en fait, dont un disque et la même chose.
Voilà, il y a le coffret collector, comme j'ai dit, Traffic Command Box, une boîte de premier secours contre le communautarisme. Ok, donc si jamais vous sentez que vous rentrez dans une communauté, vous ouvrez la boîte et dedans vous avez du sel relaxant de la mer morte que vous trempez dans les bains un quart d'heure, 20 minutes, vous relaxez, vous réfléchissez bien si vous voulez rentrer dans une communauté. Ensuite, vous avez l'album de Boogie Balagan avec 10 titres. Ça chante, c'est du rock méditerranéen, ça chante en anglais mélangé avec de l'arabe, du grec, espagnol, français, hébreu, du Maldives. Vous mettez l'album à Danf. Ensuite, vous avez le Zaatar, c'est une épice que les Palestiniens vendent à Jérusalem, auquel vous trempez la baguette. Et apparemment, ça rend intelligent. Et comme la musique, ça tue, vous avez envie de comprendre de quoi on parle. Vous avez un petit livret fait à la main avec les paroles, avec la traduction en française des chansons.
C'est le Walou Book. La philosophie, c'est on arrête de se lamenter un peu et on essaye d'abattre ces murs qu'on érige, pas seulement en Israël, hein, puisqu'on essaye de défocaliser le cliché et puis de bouger la loupe un peu et d'essayer de montrer qu'il y a des murs qui n'existent pas Et voilà, il y a moyen de traverser un peu tout ça par des allégories, par la musique, les chansons. C'est vraiment une entreprise un peu familiale. Et ce qui s'est passé, c'est que donc on a envoyé le clown faire l'homme sandwich. On a voulu jouer un peu comme ça se passait dans les années 70 à New York, où les artistes étaient dans la rue à promouvoir leur projet. Le clown, c'est Gabri. C'est, sur scène, il a un nez rouge. C'est notre Charlie Chaplin méditerranéen. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que chaque galette vendue nous a permis de financer la suite, de continuer à, par exemple, de payer les musiciens pour les concerts. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment ma petite entreprise.
Qui tient dans une mallette.
Qui tient dans le Walou mallette.
C'est la mallette du home sandwich, quoi.
D'accord.
C'est-à-dire, mais des temps modernes, tu vois, il y a des trucs qui s'allument.
Qu'est-ce qui est écrit là ?
Ceci est une boîte de premier secours contre le communautarisme, trafic comme un box. Et voilà, c'est comme ça que les gens, ils accrochent. Et ensuite, après, voilà. Donc, soit ils m'arrêtent dans la rue, c'est quoi ça ? Et donc, j'ouvre la mallette et c'est parti. Soit je rentre dans les bars. Voilà, je les accoste un par un. Ouais, bonsoir. Pourriez-vous m'accorder une petite minute, s'il vous plaît ? Ouais. Voilà, j'explique que nous sommes un groupe rock'n'roll. Un projet rock méditerranéen sur les influences israélo-palestiniennes. Et voilà, j'ai aussi. On a aussi le Walkman avec les casques, les gens qui veulent écouter. Il y a un menu de chansons. Voilà, donc je leur présente le menu de chansons. Ils ont qu'à choisir un titre. Voilà, Chiffon Yanas, Ride On, Dalida Blues, Lamentation Walou. Tu veux écouter une chanson ?
Bah ouais.
Laquelle ? Lamentation Walou ?
Ouais.
Ok, bah quand j'étais un gosse, je rêvais d'une terre. Une telle promise pour tout le monde. Quand j'étais un gamin, j'ai creusé les longs de la frontière. J'ai semé les semences du thon, la pastèque, tournesol, je me sentais bien. Mon pote Ali était de ma bande, mais il jouait de l'autre côté. J'escaladions ces montagnes, nous volions aussi haut que les aigles, alors pendant ce temps.
When I was a boy, I was dreaming of a land. A promised land for everyone.
Boogie Balagan au micro d'Elsa Boogie. Le groupe est en concert à la Seine Bastille le 16 mars à 20h30. Malheureusement, mes invités chéris, on a une minute chacun pour une phrase choc pour terminer sur les DRM. Une discussion va sans doute continuer à faire bien longtemps. FX Nuttall, vous voulez commencer?
Oui, je dis, on va admettre qu'on bricole un petit peu en ce moment avec l'héritage, en fait, des ce que j'appelle les anciennes technologies, entre guillemets, le compact disque enregistrable, le MP3 qui est pas très sécurisé. Et ça nous empêche, en fait, de faire une offre vraiment lisible, claire et attractive pour le public. Donc, je crois que la priorité maintenant, ça va être de travailler toutes les industries ensemble et de travailler sur un projet, pour l'instant, qu'on pourrait appeler l'interopérabilité entre les DRM.
Ce que vous êtes en train de faire à la CISAC.
Ce qu'on est en train de monter à la CISAC comme forum international, qui nous permettra de construire, en fait, des vraies offres commerciales, culturelles, qui seront vraiment attractives. Mais on n'en est pas encore là et on doit aujourd'hui vivre avec le présent.
Christophe Espern.
Oui, moi, ça sera plutôt sur l'acceptabilité. Donc, on parle beaucoup de l'acceptabilité des DRM. Je vais noter juste une chose. Là, le projet, on crée un projet de loi pour les légaliser, les protéger juridiquement. Donc, en fait, on les impose. C'est-à-dire que, alors que la logique du marché en lance et l'offre rencontre la demande, là, on crée une loi qui va imposer les dispositifs et les protéger juridiquement. Cette notion d'acceptabilité, on la retrouve en général sur des technologies dites, entre guillemets, sécuritaires qui sont refusées par le public. On a un exemple très simple qui est les technologies de biométrie, donc de contrôle des empreintes digitales. Les industriels ont fait tout un discours autour de la biométrie pour la mettre dans le civil en expliquant qu'il fallait la présenter sur un jour favorable pour le consommateur, etc. C'est parce qu'ils refusaient, parce que ça portait atteinte à ses libertés. Et on en est arrivé où ? On en est arrivé à déployer dans les écoles maternelles des dispositifs de biométrie pour accéder aux cantines, pour habituer les enfants le plus tôt possible à mettre leur pouce dessus. Et là, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on nous explique, j'ai remarqué que le discours en fait des pros DRM a baissé d'un ton en disant mais ça va être très souple, ça va être beaucoup plus fluide, etc. Ça, c'est des mots. Dans la réalité, les technologies telles qu'elles sont actuellement empêchent le consommateur de faire un usage normal, le traite comme un suspect, pose des problèmes de sécurité informatique, éventuellement de vie privée. Et ça, c'est la réalité. Et pourtant, on va créer une loi dans un contexte d'urgence.
Oui, trop vite,
vitesse,
pour
15 jours.
Votre avis,
et
discuter.
Il y a la communication. Après, il y a la réalité du droit juridique. Et ensuite, il y a la réalité de la technique. Et il faut pas tout mettre dans la communication. Il faut aussi regarder ce qui se fait réellement techniquement et ce qui va se faire réellement juridiquement, c'est dans 15 jours là. Alors, il faut faire attention quand même à pas rester uniquement dans le discours communication comme le terme acceptabilité.
Marguez, SIPP.
Je prends d'abord, je suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Les DRM posent pas de problème de sécurité, pas de problème de vie privée, c'est pas vrai. Mais surtout, je crois qu'il faut pas opposer systématiquement les intérêts du public et des consommateurs, et des créateurs plutôt. Ce sont les mêmes, in fine. Parce que si la piraterie continue, il y aura plus de production d'œuvres nouvelles, et le public sera la première victime de situation. Donc c'est pas l'intérêt du public de pirater à tout va sans limite. Les DRM permettent de réconcilier ses intérêts créateurs-consommateurs en limitant la piraterie, mais n'empêchant pas la code privée. Et bien sûr, il faut respecter la vie privée des gens. Et bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait pas de secteur informatique. Autant que je sache, tous les DRM du marché aujourd'hui ne créent aucun de ces problèmes. Donc il faut arrêter de fantasmer sur les DRM. Les DRM, ce sont des technologies qui sont de l'intérêt du public parce qu'ils permettent de réconcilier effectivement une économie de la création avec les besoins des consommateurs d'aujourd'hui.
À suivre.
Oui, mais enfin, ça permet de réconcilier les intérêts du public avec ceux des créateurs à partir du moment où ils peuvent faire des exports MP3. Sinon, ça le permet pas. C'est actuellement ce qu'on vient de nous expliquer.
Non. N'importe qui achète sur iTunes peut voir toutes les possibilités de copies qu'il a, elles sont énormes.
Envers le MP3, on vient de nous le dire comment faire. Il suffit de cliquer dans un coin pour faire un MP3.
Non, mais sans passer par le MP3, si vous voulez, ça, iTunes, les droits qui sont donnés aux consommateurs sont gigantesques.
Il suffit d'aller sur le site donc du ministre et téléchargement.com. Qu'est-ce que vous voulez pour une offre légale? Pas de DRM, tout le monde le répète. Pas de DRM, oui. Le consommateur n'en veut pas. Si l'offre veut l'imposer par la loi, on verra si ça tiendra.
Merci.
Attention, la loi n'impose rien. Elle n'impose pas les DRM.
Merci Marquez, François, Xavier Nuttall et Christian Espern d'être venus parler des DRM.
Cher Vali, moi de toute façon, j'écoute que des vinyles, alors bon, j'ai pas d'ordinateur chez moi.
Avec Taz, au moins, c'est clair. Comme chaque semaine, je jette une oreille sur le classement numérique des 100 chansons téléchargées légalement sur les magasins en ligne. C'est Audi2 qui nous fournit ces résultats. Qu'est-ce qui marche au Portugal? À la 5e place, High Tech CCC Waiting for You. À la 4e place, Kelly Clarkson, Because of You. À la 3e place, Madonna, Hung Up. À la 2e place, Coldplay, Talk. Et à la 1ère place, Richard Ashcroft, Why Not Nothing. C'était les 5 chansons les plus téléchargées sur les plateformes légales de la musique en ligne au Portugal.
Bonjour ignorant, je te donne le salut des secrets et des mots, le salut d'une chanson qui parle. Et le salut des choses importantes qui tout ensemble font l'étoffe de l'au-delà des apparences. Et merci immense du monde.
Je te donne le salut de l'amour, un soir dans un café des olivets, le salut des flammes de l'ivresse et le souvenir des pierres.
Le salut d'une chanson qui parle des rythmes de septembre, d'une robe qui danse. Le salut d'une planète foraine.
semaine avec ses marchés d'ombre, d'un maçon correct, une confidence faite à la terre. Sur le flanc, j'ai sa attitude. Et le salut des choses sans importance qui tout ensemble font l'étoffe de l'au-delà des apparences. Et merci immense du monde.
Je te donne le salut de la façon des arbres, le chemin des animaux, le salut des certitudes. Ici, là, je sors.
Vous entendez, et ça discute encore dans Système 10. C'était Lojo, album est tourné avec France Inter, ils sont le 3 mars à Montpellier. Merci encore à FX Nuttall, Marc Guez et Christophe Espern d'être venus aujourd'hui parler de ce sujet qui est très dense. Merci aussi à Jack No, Eddie Mitchell, Louis Bertignac, Baz Baz et Hubert Félix Tiffen. Je vais juste dire bienvenue au monde à Lilian Couchet qui est arrivé hier. Toutes les infos liées à cette émission sont sur le site de Système Disque, tapez franceinter.com, vous pourrez la réécouter pendant 8 jours. Merci aussi à tous les internautes qui nous ont écrit aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de tout lire et tout répondre, mais je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses que vous avez posées de toute façon. La semaine prochaine, l'une chante et l'autre aussi avec Agnès Jaoui et Sandrine Kiberlin. Système Disque a été réalisé par Maïté Vasseur avec Loïc Frapsos et Ronan Maillet. Merci à mon équipe Anne Biron, Elsa Boublil, Céan Boutata et Emmanuel Chupin. José Arthur et C'est pas dramatique arrive juste après le journal. Il est tout juste 18h. Le journal avec Odile Martin. Jacqueline Petrose plutôt.